Bonjour et bienvenue dans ce podcast Les lois de l'attraction. Je suis François-Xavier, alias FX, et je baigne dans l'univers du recrutement depuis plus de 10 ans, et dans le grand bain, celui de l'hôtellerie-restauration. Depuis mes débuts en 2006, beaucoup de choses ont changé. En quête de sens, candidats et collaborateurs attendent des entreprises qu'elles les fassent progresser, eux et la société. Savoir placer l'humain au cœur de la stratégie d'entreprise est devenu un critère de réussite. J'ai décidé de créer ce podcast pour aller à la rencontre de dirigeants, de DRH, de directeurs recrutement et de voir quelles sont leurs stratégies qui leur permettent d'attirer, de fidéliser et d'inspirer les collaborateurs. C'est parti pour ce podcast autour des lois de l'attraction. Alors, je me suis entouré de trois personnes incroyablement pertinentes sur ce sujet de recrutement et de marque employeur qui, en plus, ont déjà fait un galop d'essai au micro du podcast des lois de l'attraction. J'ai l'honneur de vous présenter Laetitia Sylvestre, experte en marque employeur, assoiffée de nouveautés et aujourd'hui agitatrice de la communauté RH chez Saint-Gobain Distribution France. Bonjour Laetitia.
Salut à tous.
Des pros maintenant. Tiziana Fava, la diva del recrutamento, qui a créé le service recrutement de Big Mama et qui est désormais Global Talent Acquisition Director.
Bonjour tout le monde.
Sous vos applaudissements. Et Mathieu Penet, l'apôtre de l'expérience candidat, fondateur CEO d'Iago, de CASC, co-créateur du collectif de recrutement. Bonjour Mathieu.
Bonjour FX, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, on a choisi collectivement, parce qu'on a brainstormé un petit peu avant. Il y avait beaucoup de thèmes qui nous intéressaient. Il y en a un qui est ressorti parce qu'il est omniprésent dans nos vies. C'est LinkedIn. LinkedIn a dépassé le milliard d'utilisateurs, présent dans plus de 200 pays. C'est un acteur incontournable pour les community managers qui placent Instagram en premier et LinkedIn en deuxième. Parce qu'évidemment, il y a un côté business hyper fort, il y a un côté recrutement largement aussi fort. Donc ça intéresse les sociétés et les entreprises pour communiquer auprès de leurs prospects, de leurs clients, de leurs candidats, de leurs collaborateurs. Et une petite stat avant de commencer, c'est 74% des entreprises de plus de 1000 employés partagent des contenus toutes les semaines. C'est quand même pas mal. Mmh. Il y a des gens qui communiquent encore plus. Bah Laetitia, vous communiquez combien de fois, vous, avec Saint-Gobain ?
On essaye d'animer le compte corporate 2 à 3 fois par semaine. Et puis après, il y a tous nos ambassadeurs qui prennent la parole. Ça représente encore plus de visibilité sur une semaine.
Ça fait combien ? Vous avez un ordre d'idée ?
Je dirais entre 5 et 10 postes par semaine créés par les collaborateurs.
Ok.
Waouh !
Ah, beau. Ça met la pression.
C'est beau.
C'est beau. Bon, on va pas tout de suite commencer. On fait un petit tour de table. Comment ça va, Laetitia, aujourd'hui ?
Ça va super bien. Je suis ravie d'être avec vous et de parler de ce beau sujet parce que voilà, LinkedIn, c'est devenu un incontournable dans le paysage du recrutement. Et je dirais que c'est the réseau social pro pour faire sa veille, réseauter, trouver des prestats, un emploi. Et on verra
tout faire, quoi.
Toutes les fonctionnalités. Ouais, c'est un peu all inclusive.
Okay. Alors Mathieu ?
Ça va hyper bien. Je suis très content d'être là aujourd'hui. J'avoue, pour moi, LinkedIn, c'est un peu une drogue. C'est un peu le... c'est peut-être la première application. Première application que j'ouvre le matin en ouvrant les yeux. J'ouvre ça... Ouais, même quand je me réveille dans la nuit, ça m'arrive de regarder, tiens, j'ai 3 notifs, j'ai quand même envie d'aller voir. Et voilà.
Parfois... Tu laisses les notifications LinkedIn. Alors.
Ouais.
Okay. Il faut lancer des LinkedIn détox.
Exactement.
Dans quelques années.
Et non, ça va très bien. Et en ce moment, je dois dire, c'est assez chouette. Sur LinkedIn, il y a un espèce d'engouement par rapport au sujet qu'on peut adresser avec Iago et sur les logiques d'expérience candidat. Et il y a des candidats qui prennent la parole quand ils se sentent pas bien traités avec des entreprises.
Ouais.
Et du coup, nous, on peut s'appuyer là-dessus. Donc, c'est aussi un levier hyper intéressant que les candidats prennent de plus en plus la parole sur LinkedIn pour raconter leurs histoires de recrutement et leurs relations avec les entreprises.
Cool.
Ouais.
Petite Diana, comment ça va ?
Très bien.
Ouais.
Merci d'être là. Je suis ravie. LinkedIn, pour moi, c'est assez central dans mes missions. Je m'occupe depuis quelques années d'animer la page de notre entreprise. La planification, les contenus, et comment justement animer aussi cela via nos collaborateurs. C'est encore un peu tôt, mais voilà, ça va monter en puissance. Et ça fait partie aussi, bien sûr, de la partie recrutement pur. Donc pour moi, il a différents angles, un côté vraiment culture d'entreprise que j'anime. Partie recrutement pur, donc comment on recrute, comment Big Mama il recrute sur LinkedIn. Et j'apprends beaucoup aussi, que ce soit du networking, mais aussi j'apprends des nouvelles pratiques, j'apprends des autres. Donc c'est aussi une source d'inspiration concrète, très accessible. J'ouvre une application et j'apprends des choses. Je peux m'inscrire à un webinar, regarder un profil de quelqu'un qui a fait des expériences beaucoup plus innovante, poussée qu'est moi aujourd'hui, et je m'inspire. Donc pour moi, c'est ces trois blocs, et c'est assez vaste et excitant.
C'est vrai qu'il y a un gros partage d'infos. Enfin, on prend un tout petit peu d'avance, mais sur ce côté, comme disait Mathieu, c'est un sujet qui est très traité, mais sur les influenceurs RH qui parlent, qui racontent un petit peu, qui partagent leur expertise, et donc c'est, tu peux apprendre. Bon, tu as aussi LinkedIn Learning, hein. Et tu peux aller apprendre avec des vidéos. Je ne sais pas si vous avez déjà servi de LinkedIn Learning. Non.
Un petit peu, mais je trouve ça un peu moins spontané. C'est ce que je trouve bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cet partage vraiment d'expérience. Simplement, j'étais en face de choisir mon job board en Espagne. Comment j'ai fait ça, j'ai trouvé génial pour mon industrie. Je les partage. Peut-être une personne va être intéressée. Je trouve ça très riche et très peu...
Plutôt quelque chose de spontané que quelque chose de pédagogique avec du vrai contenu. Moi, j'en ai regardé 2-3 dans LinkedIn Learning. J'ai pas trouvé ça foufou, quoi. Donc, plutôt apprendre des gens, de ses pairs. C'est quand même complètement le concept. Et c'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, quoi, quelque part. si les gens apprennent des choses, ça sera top. Un petit quiz sur LinkedIn, facile. Hein. En quelle année a été lancé LinkedIn ?
moi je dirais dans les années 2000, ça c'est sûr. Je me suis inscrite en 2005 à la sortie de mes études, où à l'époque il fallait absolument créer un profil en anglais parce que c'était le réseau international. On avait Viadeo pour la France et LinkedIn si on voulait trouver un job à l'international. Donc, je dirais 2004.
Pas mal. Pas loin. En tout cas, c'est feu Viadeo.
Ouais.
Déjà, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été créée, Viadeo. Ouais.
Très visionnaire. Laetitia.
Ouais. C'était encore l'époque où il fallait être un peu schizophrène et avoir un profil Viadeo et un profil LinkedIn.
Exactement.
Toi, tu as créé un profil quand, Mathieu ? Je ne sais pas si ça se voit, ça, sur les profils LinkedIn.
On a la date, en plus. Ouais, bien sûr.
Mais je pense que j'ai dû le faire assez tôt. Assez tôt, même peut-être avant d'être diplômé. Donc,
Wow.
Ouais.
2015.
Voilà, disons 2015.
Et 2002, a priori, 2002, décembre 2002 à LinkedIn. Donc, un des plus vieux réseaux sociaux qui existe aujourd'hui, qui se porte plutôt pas trop mal. Combien d'abonnés LinkedIn en France ?
Beaucoup.
Combien de personnes ?
Beaucoup, beaucoup.
Ouais, il y en a 27 millions. En fait, la stat qui m'impressionne, moi, c'est que ça représente 90% de la population active française. Donc, ça veut dire effectivement qu'il y a du monde.
Il y a tout le monde.
Et il y a de tout, tous les profils. Ouais.
Même un président de la République. Enfin, notre président de la République. Alors, je ne sais pas combien de présidents, d'ailleurs, dans les autres pays, si c'est quelque chose d'assez classique. Mais Emmanuel Macron, quand je cherchais la personne qui a le plus d'abonnés en France, bah, c'était lui, avec 3 millions d'abonnés. Juste devant Mathieu.
Pas mal.
Pas mal. On va passer tout de suite aux bonnes pratiques. Du coup, on va commencer... Alors, c'est vrai que... de mon point de vue qui a fait pas mal de recrutement, c'est toujours le petit débat entre les commerciaux qui disent bah, LinkedIn c'est fait pour trouver du business et les recruteurs qui disent LinkedIn c'est fait pour recruter. LinkedIn c'est RH ou LinkedIn c'est commercial. Tu t'en penses quoi, Tiziana, toi ? Tu l'utilises comment ?
Je ne l'utilise pas d'un point de vue commercial, de mon point de vue, mais Il y a bien sûr un projet très fort sur la culture d'entreprise, en fait, qui va avec les recrutements purs. Donc les deux, ils vont ensemble, hein, de toute façon, dans cette plateforme. Et même aujourd'hui, les candidats, ils veulent voir les deux. Les deux, ils vont ensemble. Donc,
toi, tu chasses ?
On chasse, oui. On chasse, mais on est assez attentif aussi à regarder ce type de data. Ça veut dire que moi, mon but, c'est générer les plus possibles des candidatures. Ça veut dire qu'on est attractif. Ça veut dire que nos candidats, on les attire à postuler. Après, bien évidemment aussi, on chasse des gens, tout type de profil, parce que c'est intéressant, même un point de vue d'échange ou des ciblés exactement en compétences qu'on est en train de chercher. Parfois, c'est plus direct.
T'en penses quoi de LinkedIn recruteur ?
C'est assez puissant.
Vous avez le compte ?
Oui, bien sûr. Ouais. On a les comptes. C'est assez puissant. Bien sûr.
Bien sûr.
Ouais.
T'as pas le choix ?
Non, j'ai pas le choix. Il faut en avoir. Après, il faut bien cibler les postes. Pas avec tous les postes qui fonctionnent. Nous, on est dans la restauration. Donc, pour exemple, avoir un compte recruteur pour recruter des commis de cuisine, pour l'instant, ce n'est pas du tout un bon retour à investissement, à mon sens.
C'est peut-être les 10% qui ne sont pas encore sur LinkedIn, alors.
J'ai pensé. Ils sont en train de monter, en tout cas. Ouais. Quand tu vas dans le moteur des recherches, en vrai, il y en a beaucoup. Après, tout dépend.
Ouais.
Il y en a beaucoup
après,
quand même. Mais après,
ils sont aussi attentifs que Mathieu sur LinkedIn peut-être pas, quoi.
Tu cherches. Après, voilà, sur l'autre partie plus managériale, du coup, on parle plutôt des cadres. J'ai trouvé là un excellent retour là-dessus. Du coup, un vrai contact avec des gens pour initier vraiment une conversation avec quelqu'un. Et moi, j'insiste beaucoup de mon expérience au fait que on voit beaucoup aujourd'hui, tout le monde, il chasse un peu en masse. Voilà. Et il y a aussi des outils, machin. Je trouve que ce n'est pas du tout quelque chose qui apporte énormément des résultats, je pense. Mmh. Mais plutôt vraiment dédié à la chasse, les temps qualitatifs pour bien cibler et aussi faire sentir les candidats en position un peu privilégiée, en fait. Et du coup, avoir peut-être plus des succès, avoir déjà la personne choisie correspondant au poste et donner un peu d'attention à la personne qu'on est en train de contacter, ouais. Et pas être 1 sur 10 millions envoyé en automatisé, quoi.
Plus
les
quali,
résultats,
plus quali que quanti, quoi. Faire de la qualité.
Je suis plus sous la quali que les quanti sous la chasse. Oui.
Et Mathieu, toi, j'imagine que tu as un côté un tout petit peu, regard un petit peu différent sur l'utilisation de LinkedIn, peut-être plus business que recrutement.
Ouais, beaucoup plus. Enfin, disons à vocation business.
Ouais.
Mais en fait, la population des gens que je cherche à contacter sur LinkedIn, ce sont des gens qui prennent de plus en plus la parole sur des sujets de recrutement. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que je me sers de leur poste et des convictions qu'ils peuvent mettre dans leur poste pour savoir si c'est intéressant d'aller les contacter ou non.
Donc toi, tu suis tes prospects, tu suis un peu le contenu qu'ils produisent.
Ouais.
Et en fonction de ça, du coup, ça te fait
dire
tiens,
il y a écho.
Savoir
si ça vaut le coup d'y aller ou si c'est le moment. Ou si c'est pas la peine. Après, y a un sujet, c'est qu'il y a tellement de démarchage commercial, et moi, en tant que patron de PME, je me fais démarcher pour à peu près vraiment l'ensemble des trucs. Il y a 2-3 ans, j'avais écrit un article en demandant à tous les gens qui faisaient de la prospection sur LinkedIn de se calmer un peu et d'essayer de faire un peu attention à avant, parce que en fait.
Avec ce côté très quanti dont parlait
Didier,
c'est de dire allez, on harcèle du candidat et plus tu vas en toucher, plus tu auras potentiellement des recrutements derrière. Quoi.
Pour essayer de me proposer des consultants, pour me proposer d'essayer de me proposer de changer le système de téléphonie, de changer d'opérateur. En fait, LinkedIn, ça, j'en ai plein. De la prospection. Et donc, j'arrive à entreapercevoir qu'est-ce que c'est que la vie d'un recruteur sur LinkedIn qui se fait alpaguer par toute la HR Tech. Et du coup, cette logique de ok, il faut y aller en mode ultra sniper parce que sinon, tu te noies dans la masse. Et la tendance de LinkedIn est d'être de plus en plus authentique et de porter des convictions et de porter des valeurs. Et en fait, pour pouvoir utiliser LinkedIn en business pour nous, c'est hyper utile de savoir quel est le mood de la personne, quel est son état d'esprit, quels sont ses enjeux, et est-ce que ça vaut le coup. Donc oui, nous c'est clairement à vocation business, mais on s'appuie sur qu'est-ce que proposent les gens, et l'avantage et l'évolution du truc, c'est qu'on demande maintenant aux recruteurs et aux RH de prendre de plus en plus la parole sur LinkedIn pour faire de la marque employeur, expliquer des valeurs, expliquer des modes de fonctionnement. Et ben nous, ça nous sert à fond pour identifier les bonnes personnes.
Sans transition, du coup, on aurait pu le réfléchir, on l'aurait pas mieux fait. C'est un peu ce que fait Laetitia, quoi, quelque part.
Ouais, bah, il y a eu les RH à parler. Les RH et les collaborateurs en général, mais il y a eu vraiment une évolution dans le réseau. Au tout début, c'était un peu une énorme CV tech où chacun créait son profil et puis bah, les recruteurs allaient piocher dans cette base. Et après, il y a eu toute la partie contenu, création de contenu. Et en fait, LinkedIn l'a bien compris. Plus il y a de contenu, plus les gens restent sur le réseau, plus il se passe des choses et plus les gens interagissent. Et moi, je trouve que bah, pour servir le recrutement, il n'y a rien de mieux que justement de montrer vraiment des choses qui se passent, des choses du quotidien, de servir de la vie réelle, des collaborateurs, des RH, parce que aujourd'hui, en fait, ça ne suffit pas de poster une offre sur son fil d'actualité. Enfin, ça, d'ailleurs, moi, je mets un gros, un gros warning là-dessus parce qu'il y a des outils payants sur LinkedIn, il y a les job slots, il y a voilà. Et donc, il ne faut pas noyer son audience avec des offres d'emploi tous les jours parce que c'est contre-productif. Et en fait, souvent, ce que j'entends de la part des RH, c'est en fait, c'est pas mon travail de publier sur les réseaux sociaux. Mmh. Et donc, du coup, on essaye de les accompagner pour leur dire, en fait, être ambassadeur, ça doit pas être une corvée. Donc, comment les amener à créer des opportunités, justement, en produisant du contenu, en partageant des choses de la vraie vie, c'est déjà de le faire avec les volontaires. Parce que si on force les gens à le faire, ça marche pas, quoi, ça prend pas.
Ah mince, parce que c'était ma question. Quand tu disais, tiens, il y en a qui veulent pas communiquer, c'est pas mon boulot. Et puis t'as aussi ce côté qui ressort pas mal, je pense, auquel tu dois être confronté, c'est non mais c'est ma page, c'est privé.
Mm-mm, aussi.
Et
ouais.
Alors que la frontière entre ta page privée mais que t'affiches avec le nom de ton entreprise.
C'est sûr qu'il faut être aligné avec son entreprise quand on prend la parole sur LinkedIn. Moi, quand je communique, c'est au nom de Laetitia Sylvestre de Saint-Gobain. Je ne peux pas dissocier les deux. Maintenant, c'est pas le même type de contenu. C'est complémentaire. Ce qu'on va poster sur la page corporate et sur la page sur sa page perso. Je pense que voilà, sur sa page perso, on peut trouver plein de choses à raconter sur son quotidien, sur un projet qui nous tient à cœur, partager des conseils aux candidats. On parlait tout à l'heure des bonnes pratiques à partager avec ses pairs. Et donc du coup ça va vraiment animer justement tous ces contenus qui sont publiés sur le réseau. Ça va donner à voir un peu l'ambiance, les valeurs de l'entreprise à travers les gens, avec des exemples concrets du retour d'expérience, des situations auxquelles on a été confronté dans la vraie vie. Et en fait aujourd'hui on se rend compte que c'est ce que recherchent les candidats quand ils se connectent à une personne, quand ils vont chercher un job, ils vont aller voir les profils des dirigeants, des DRH, des RH. Donc, ça devient dans les pratiques des candidats et du coup, il faut être conscient de ça. Et c'est pas parce qu'on poste pas tous les jours que c'est grave.
Ouais.
Moi-même, je n'y arrive pas. Donc voilà. Mais se dire de temps en temps, qu'est-ce que mon audience a envie de savoir, plutôt que qu'est-ce que j'ai envie de raconter, parce que ça aussi c'est un peu le défaut parfois. Je vois des posts zéro valeur ajoutée, quoi. Je me dis mais en fait on peut dire des choses, on peut prendre la parole, mais il faut quand même que ça apporte une valeur sur le réseau.
Tu penses à quelque chose, Mathieu, ouais. J'ai l'impression.
Parce que, en fait, ce que je trouve dur...
Des posts sans valeur ajoutée.
Il y en a pas mal. Et après, moi, je sature un peu des photos d'illustrations de posts avec parfois l'auteur qui prend son café ou des photos juste avec pas beaucoup d'intérêt, je dirais.
Moi, me and myself.
Ouais, voilà. mais je voulais juste rebondir par rapport au fait de... Toi, tu postes en tant que Laetitia Sylvestre de Saint-Gobain parce que c'est une partie de ton métier. Et que de faire rayonner la boîte, c'est un truc, c'est dans ta fiche de poste, en fait, directement.
Ouais, tu l'as intégré dans
tout
mes
en haut même. Ouais.
Et surtout, t'es en accord avec tout ce que tu diffuses parce que tu sais que ça va servir ton audience. Mm. Ce que je trouve extrêmement compliqué, c'est de demander à des collaborateurs de venir relayer des informations ou mettre même leur patte ou leur touch par-dessus pour raconter un peu la vraie vie et qu'ils arrivent. Donc ça, souvent, ils sont OK quand ils sont en accord avec le contenu. Mais d'arriver à leur montrer que ça a de la valeur ajoutée pour leurs audiences à eux, c'est ça le truc qu'il faut réussir à surmonter.
Il ouais.
y a un syndrome de l'imposteur qui se fait même sur des collaborateurs quand on leur demande de prendre la parole sur LinkedIn, où ils se disent « Mais pourquoi je mettrais ça, en fait ? Ça va intéresser personne. » Et puis, c'est pas moi, avec ma petite voix, qui vais participer à ce truc-là.
Ouais,
et bah, en fait, il y a cet état d'esprit, je trouve, qu'il faut aller insuffler auprès des collaborateurs.
Te débloquer, quoi.
Ouais.
Bah, parce que après, c'est vrai que c'est un métier aussi de rédiger. T'as un peu le stress de la page blanche. Tu te retrouves face à
ouais.
qu'est-ce que vous voulez raconter aujourd'hui au monde entier, aux 1 milliard de personnes, quand même.
Voilà.
Ouais, petite
pression. Hein.
Mais, et après, t'as le truc de. Et si la personne, elle a pas un nombre de likes suffisant, elle le prend directement pour elle.
Ah, là, on touche dans le côté,
réseaux
sociaux,
social pur et dur.
Ouais.
Ah, mais c'est parce que j'ai publié une info corporate, en fait, ça intéresse personne. Alors que
ouais.
j'aimerais bien, moi, avoir la proportion, enfin, essayer de rendre le truc un peu plus scientifique, du nombre de personnes qui voient un post et ceux qui interagissent réellement. Parce qu'en fait, quand tu...
Ah, je l'ai vu, mince.
C'est
vrai. je l'ai pas prise.
Parce que je trouve que c'est un truc qui rassurerait énormément les collaborateurs quand tu leur demandes de diffuser une info dans laquelle ils croient et avec laquelle ils sont OK, que tu l'aies éditorialisé pour eux ou non, en fait, sauf, voilà, ça change rien, mais de pouvoir aller les dédouaner ou les rassurer complètement par rapport à, ils seront pas évalués socialement par rapport au nombre de likes qu'ils feront sur leur post qu'ils pourront avoir sur LinkedIn.
Alors il faut, faut accompagner, il faut dédramatiser, il faut montrer en fait, faut montrer effectivement ce que ça peut créer en termes de visibilité, de puissance. Bah, nous par exemple, on a comparé le volume d'impressions générées par des postes corpo RH sur la page donc de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France et les postes qui ont été créés par toute notre communauté d'ambassadeurs, donc à peu près une dizaine d'ambassadeurs cette année. Et ben en fait le nombre d'impressions est 4 fois plus important avec un collectif de collaborateurs que la page corpo. Donc en fait en moyenne quand tu postes un post sur ta page corporate et ben ça a 4 fois moins d'impressions de visibilité qu'un post publié par un collaborateur.
Faut arrêter la page corporate presque. Ou elle est là pour que les gens puissent s'y rattacher.
C'est une vitrine.
Mais ouais, tu communiques quelque chose, mais si tu as envie de toucher, en tout cas, tu prends plutôt tes collaborateurs que de parler avec ta page perso. Quoi.
C'est complémentaire parce que bah, le réseau qu'on va toucher n'est pas le même. Et d'ailleurs, nous, on est en train de prendre la page corporate d'une autre façon aussi. Ça devient aussi un outil de communication interne.
Ah.
Parce que la majorité des abonnés sont des collaborateurs ou des anciens collaborateurs. Et donc du coup, c'est hyper intéressant pour eux d'avoir finalement de l'actu chaude qu'on n'a pas par exemple dans un journal interne qui est publié tous les trimestres. Et donc beaucoup de collaborateurs nous disent « Ah bah oui, j'ai vu ça sur LinkedIn.
» Ah, c'est hyper intéressant ça. Ouais. Outil de com interne, le réseau social d'entreprise.
Et après, peut-être juste pour rebondir, pardon.
Non, vas-y.
Page corporate ou page personnelle. La page personnelle permet d'aller atterrir dans le feed des gens et de tes contacts. Là où j'ai l'impression que la page entreprise sert un peu comme un Wikipédia des entreprises, où en fait tu vas taper dans la barre de recherche l'entreprise dans laquelle tu cherches à postuler, tu vas faire une recherche directement et tu vas regarder les posts et quel est l'ADN de la boîte et qu'est-ce qu'ils racontent. Mais donc c'est moins instantané le contenu, enfin c'est moins une utilisation instantanée le contenu diffusé sur la page corporate, c'est plutôt effectivement le candidat ou le prospect, il va regarder l'ensemble des posts que tu as pu mettre pour se faire une idée de l'ADN.
Un peu page carrière quoi.
Ouais,
page carrière exactement.
Du site, ouais.
Mais
ouais.
Du coup c'est pas grave si ça tombe pas dans le feed des gens, c'est pas grave s'il y a moins de likes.
C'est plutôt du contenu quoi. Et chez Big Mama alors, comment ça se passe? Vous avez des ambassadeurs, vous communiquez avec la page carrière?
Alors, c'est une bonne question. Je pars du fait que on a la chance d'avoir des gens, on est encore voilà, 2200 collaborateurs, je me sens à la fois petit, à la fois grand, ça dépend du sujet. sous celle-là, je me sens entre les deux, ça veut dire qu'on commence à avoir un peu de visibilité, mais on est quand même encore présent sous la page corporate, on publie quand même assez régulièrement. Après, voilà, on peut faire, on essaye de faire toujours mieux, de rester attaché à qui on est, surtout. Par rapport à la création des contenus des collaborateurs et comment justement relier les deux ensemble, ça s'est fait pour l'instant assez spontanément. J'ai en train de travailler sur les sujets parce que déjà c'est hyper passionnant. Je pense vraiment qu'il y a un impact global sur ce qu'on fait et qu'on a tellement de choses dont on va fier tous les jours. Et je sais qu'en fait, mon levier, en tout cas, c'est ce que j'ai en train d'essayer de faire avec un nombre limité des gens et volontaires et assez sensibles à la communication de ce qu'on fait.
Ouais, c'est le premier truc, c'est de prendre des gens qui sont volontaires et qui vont un peu donner l'exemple. Quoi.
Qui sont sensibles et intéressés, en tout cas.
Ouais. Vaut mieux faire ça, et c'est eux qui donneront envie aux autres, en fait, derrière, plutôt
oui,
que d'aller
surtout,
forcer.
En fait, pour moi, l'argument, j'ai en train de les voir avec ces gens-là, c'est que, en fait, je ne vais pas leur dire quoi dire dans leur poste, etc. Pas du tout, le contraire. Je vais juste les aider peut-être techniquement à construire un plan des communications peut-être dans l'année. Tu veux faire combien de postes? De quoi tu as envie de parler avec les gens? De ton travail, de ta mission? Et quand en face de toi, tu as des gens passionnés de ce qu'ils font, que ça pourrait être voilà, un changement d'un menu, un achat d'un produit d'un pays avec la Brexit. Ça pourrait être, on a comme tous les boîtes, on a plein de sujets.
Ouais.
Et aller chercher...
Oui, qui intéresseront l'audience, quoi.
Chez quelqu'un, c'est quoi qui te rend fier tous les matins? Ben, il y a tellement de réponses, c'est les aider en fait à les exprimer et les organiser un peu.
Ouais.
Ça veut dire, ok, en janvier, tu vas parler de ça. Est-ce que on s'assoit ensemble, je t'aide à rédiger peut-être un post, à faire une photo qui représente nos valeurs. Ça veut dire authentique, qui soit toi-même, quoi. Donc, ça rejoint beaucoup la communauté aussi LinkedIn, au moins de comment moi je l'entends et Big Mama il l'entend.
Moi j'ai vu, alors j'ai découvert, j'avoue, mais c'était Laetitia, tu dois être au courant. Non, mais la possibilité pour les entreprises de sponsoriser les posts de ses salariés, alors, ils appellent ça des thought leader ads.
Ouais.
Y a un côté qui m'a fait un peu peur. Je me suis dit, attends, et donc si. Déjà, je trouve que voilà, y a beaucoup de prises de parole. Alors, c'est chouette parce que tu peux, faut vraiment maintenant choisir les gens que tu suis, quoi, pour avoir quelque chose d'intéressant. Sinon, tu passes tes week-ends. Ouais. Mais, mais en plus de ça, si les boîtes maintenant vont pouvoir sponsoriser les posts de leurs collaborateurs, bah, c'est vrai que si tu, enfin après, c'est ton choix, mais il y a un petit côté un petit peu dangereux qui est aussi le piège dans lequel était tombé Viadeo. À l'époque, c'est qu'ils ont eu une démarche très commerciale. Du coup, en fait, les boîtes, elles étaient open bar, elles pouvaient envoyer des messages à tout le monde. Je pense que ça a un peu saoulé les utilisateurs qui sont plutôt tournés vers LinkedIn, qui a toujours été assez protecteur justement des utilisateurs et qui disait aux boîtes, enfin, qui a toujours mis énormément de freins. Rachat ou pas rachat, Microsoft, machin truc. En tout cas, tu vois qu'il y a une volonté de LinkedIn de débrider pas mal de choses. Et ce petit truc-là, sans tomber dans le Black Mirror, il fait un peu peur.
Je l'ai vu. J'ai vu l'offre, mais je n'ai pas vu de boîte se lancer encore sur le sujet.
Ah, ok.
Ouais.
Ah, donc ça existe, mais c'est
timide.
C'est
un budget aussi. Hein.
Ah ouais?
Oui, il y a toujours cette...
Ouais, mais si ça marche 4 fois mieux le poste d'un collab, du coup, si c'est 3 fois plus cher que de sponsoriser un poste d'entreprise...
Bah, ça dépend quel est ton ROI, hein, finalement, qu'est-ce que tu veux attendre.
Ouais. Parce que là, en plus, ça va être pas mal de visibilité, parce qu'effectivement, vu que le collaborateur, en théorie, il va partager quelque chose plutôt d'authentique sur son quotidien et tout, si tu sponsorises pas ça, il va pas y avoir un effet direct sur tes candidatures, quoi. Il y a un truc un peu plus long terme.
Bah
quoi.
Ça va un peu à contresens parce que du coup, tu as quand même la petite mention sponsorisée et qui devient d'un coup un truc publicitaire qu'on te colle dans ton fil d'actu. Donc moi, je suis pas très à l'aise avec
y a un
la
petit
démarche.
Piège, quoi. Ok. Mathieu,
à
t'es prêt à passer le cap?
je sais pas, je suis d'accord sur le côté un peu flippant, Black Mirror, mais bon, maintenant on commence à le savoir, chez LinkedIn c'est plutôt des gens malins, et s'il doit y avoir un ROI prouvable, même si c'est cher, derrière, et pour moi, alors il y a un côté un peu, il faut que le collaborateur soit OK pour être sponsorisé par l'entreprise, parce que pour moi il y a un truc de
c'est une obligation,
c'est prévu
en fait dans le fonctionnement, dans le process, le collaborateur il doit approuver que la boîte sponsorise son poste.
Bon, c'est déjà pas mal, mais bon, oui, au fur et à mesure, en fait, dès qu'il y a eu des innovations dans ce genre-là, on s'est tous plus ou moins habitués, je dirais. Donc ça se trouve, on en reparlera dans un an en se disant « Oh, bah, en fait, le sponsoring de postes perso des collaborateurs, c'est complètement normal. » Alors que là, on était juste un peu flippés.
Il y a un petit piège, quoi. un petit tour de table pour sortir un tout petit chouï de LinkedIn. En plus, il reste très peu de temps. Une petite synthèse, qu'est-ce que vous trouvez très cool en ce moment dans la galaxie recrutement ? Laetitia, vous voulez commencer ?
Ah ben moi, j'ai vu sur LinkedIn, d'ailleurs, la nouvelle campagne marque employeur Decathlon, avec un film très émotionnel d'une une collaboratrice qui fait de l'escalade et qui utilise un peu tout ce qu'elle fait dans sa vie perso, dans son sport, pour mettre au service de son job chez Decathlon. Donc, je trouve que ce parallèle vie pro-vie perso, il l'exploite très, très bien depuis plusieurs années, et ils arrivent à se renouveler. Donc, je trouvais ça assez fort. Je suis fan de la com marque employeur, et pourtant, je ne suis pas du tout sportive. Donc,
Sur Decathlon, déjà, moi, la campagne We Are, si tu regardes la campagne, tu as la chair de poule, tellement tu as le truc de le collectif a l'air ouf et tout. Ouais. Mais sur les campagnes marque employeur, je suis d'accord.
Vu sur LinkedIn.
Sponsorisé ou pas. Et une petite actu, Mathieu ?
Le monde du recrutement est un peu schizophrénique en cette fin d'année, début d'année. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on va diffuser le podcast. Il y a des grosses tendances qui arrivent de changement de paradigme dans le recrutement. Et en même temps, on demande aux entreprises de faire aussi bien avec moins de budget, parce qu'il y a 2024 qui s'annonce un peu tendu. Et du coup, il y a une schizophrénie de « je voudrais faire, mais il faut que je compose avec les règles, mais je vois quand même la tendance et il ne faut pas que je loupe le train ». Et je trouve que c'est un peu l'actu, elle est un peu là, elle est un peu sur un côté de l'arbitrage un peu dur. Et même pour nous, sur le recrutement, je ne parle pas que sur les entreprises qu'on accompagne et sur les prospects qu'on peut avoir. Il y a un truc de le recrutement est devenu central, ok. Maintenant, c'est à peu près OK dans la plupart des entreprises. Mais on leur demande de faire différemment, avec des budgets qui sont moindres. Et du coup, c'est compliqué à gérer.
Ça fait un petit moment que tout le monde est d'accord pour dire que le recrutement, c'est central, mais pas forcément pour y consacrer l'énergie et le budget nécessaire. Et comme ça, on continue de dire que c'est difficile.
Exactement.
Tiziana, des petites choses. Bon, toi, on va pas te lancer sur l'ATS, parce que sinon...
elle finalise
son installation. Ah, tu voulais le dire ?
Non,
vas-y.
Je vais finir avec ça. Et c'est souvent moins parlé dans les recrutements, mais je trouve que c'est quand même très actuel. Ah. Bon, chez moi, c'est sûr, mais pas que, parce qu'il y a de plus en plus des gens dans les RH, des management, qui se posent la question de comment vraiment faire en sorte que les recrutements ils soient vraiment au service du business et du coup l'accompagner des bons outils. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant, c'est très central en ce moment. Il a beaucoup d'outils, des plateformes, des ATS. Ce sera sûrement un argument par la suite de nos prochains rendez-vous, peut-être. Ouais. Mais je trouve que c'est assez intéressant, parce que l'effet qui devient central par la conviction qu'il faut avoir des talents pour continuer à développer les boîtes, c'est une chose conquise. Mais aussi, les savoir mettre à la bonne place du business, ça veut dire faire sortir des data, faire en sorte qu'il y a des process qui sont clairs, visibles et communicables à l'intérieur et à l'extérieur parfois de l'entreprise. Et je trouve qu'il y a de plus en plus des discussions autour de ça en recrutement. Okay. Les gens, ils se spécialisent sur ça.
Oui, ça va être des données qui vont être suivies, quoi.
Exactement. C'est hyper intéressant.
Bah, merci beaucoup. On a fait un petit tour, on a respecté presque le timing. Et à bientôt pour la prochaine.
Merci à toi.
Alors.
Et merci à vous.
Merci beaucoup. À bientôt.
Ciao.